Tout comme pour un acteur, c'est la personnalité, sa présence.
Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis.
Je m'appelle Berlin Noël et j'aime bien les yens.
Come on, guy. We'll be sweet with me.
C'est tellement intéressant de voir la réaction des spectateurs à qui on peut déplaire. J'aime bien frôler les catastrophes.
Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
On a tout vu.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Mercredi soir au Luxor, à Paris, lorsque les premières images du film Drunk sont apparues à l'écran du balcon, une spectatrice a crié « Vive le cinéma !» et toute la salle a applaudi parce que oui, le cinéma est aussi un spectacle vivant. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Ouf, ça rouvre, bonjour à toutes et à tous.
Ces trois films n'ont pas grand-chose en commun, sauf qu'ils sortent tous les trois dans la jungle de ce premier mercredi de réouverture des salles. Celui-là marque le retour au premier plan d'une actrice qui, comme son héroïne, n'a rien à perdre et tout à gagner. Bonjour Emmanuel Béard.
Bonjour.
À l'affiche de L'Étreinte, une première œuvre signée Ludovic Bergerie, Margot va dans ce film tenter de se réapproprier sa vie. Ce premier mercredi marque aussi l'arrivée d'une nouvelle réalisatrice. Bonjour Charlène Favier.
Bonjour.
Auteur de Slalom, sur l'emprise d'une jeune skieuse par son entraîneur et son parcours vers la résilience. Enfin, l'inclassable Quentin Dupieux signe cette mouche dans Mandibule et son duo d'amis. Bonjour David Marseille.
Bonjour.
Vous êtes la moitié de ce duo, Jean Gab, c'est quand même vous le cerveau de l'histoire. Enfin, les autres films à découvrir à côté des vôtres, notre sélection dans cette terrible jungle. C'est parti avec vous, Emmanuel Béard.
Alors ?
Quoi ?
Eh ben, t'as rencontré personne ?
Non, enfin, écoute, peut-être je suis un peu trop vieille pour rencontrer des gens.
Mais non, t'es super. On peut pas s'empêcher d'aimer. C'est inhumain, ça. Tu couches encore avec ton mari?
Non, mais oh, ça va pas, non?
Quoi?
Bah, je sais pas, c'est indiscret.
Oh.
On était ensemble depuis très longtemps.
Combien de temps?
Je me suis mariée, j'avais 20 ans.
Ouais, donc tu couchais plus trop avec lui. Ça veut dire que t'as pas fait l'amour depuis quand?
Arrête. Longtemps.
Longtemps, c'est-à-dire? Un an? Plus d'un an? Deux ans? Excuse-moi, je sais plus ce que je dis là. Mais t'inquiète, hein. Ça s'oublie pas. C'est juste que si ça fait autant de temps, faut vraiment que tu t'y remettes, quoi.
Le sujet est posé, une femme après le deuil de son mari se réinscrit à la fac, revient à la vie dont elle a perdu les codes. Sa jeunesse révolue, c'est Margot, c'est vous Emmanuel Béard dans L'Étreinte, le premier film donc de Ludovic Bergerie. Et vous l'avez accepté sans lire le scénario, il vous a raconté l'histoire et vous avez un peu plongé, un peu comme Margot dans le film.
Oui, il m'a longuement raconté et dressé ce portrait de femme et au fur et à mesure j'avais des pièces du puzzle et j'avais plus besoin de voir l'écriture, la langue d'un scénario. J'avais besoin de... J'arrivais de 10 ans de théâtre, alors j'ai fait un autre film avec Jeanne Balibar, mais je ne savais plus jouer. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. Il y avait un abandon qui est certainement dû à 10 ans de théâtre sur scène aussi.
Et vous vous reposiez sur une technique avant au cinéma ou...
Non, je ne me suis jamais reposée sur une technique.
Donc alors, vous avez repris des réflexes?
Il y a quelque chose, elle est sans repère, elle est paumée, elle est en équilibre, en déséquilibre. Elle se heurte, elle tombe, elle se relève. Et moi, j'avais besoin de sentir cette fragilité-là. Voilà. Et pour sentir cette fragilité-là, j'avais sans doute pas besoin de lire le scénario.
On ne sait pas trop de choses sur elle, de son passé. Vous savez des choses qu'on ne sait pas? Vous n'avez pas construit un personnage?
Non.
Vous n'avez pas eu besoin de ça?
Déjà, je ne construis jamais de personnage. Je ne sais pas ce que c'est que de construire un personnage. Je n'avais pas besoin parce que je me suis dit... on sait ces choses-là, non? Quand on est dans un couple depuis longtemps, quand on quitte, quand on est quitté, quand on perd quelqu'un, parce que par la mort, quoi, quand on perd quelqu'un qu'on aime, on sait ces choses-là. Donc j'avais vraiment pas besoin, j'avais juste besoin de fermer les yeux, de me souvenir de ces états-là, d'errance. Et Margot, tout son travail, c'est tout pour vivre, tout simplement pour continuer sa vie, c'est de se réapproprier son corps, son cœur, c'est de se battre pour continuer à vivre, tout simplement.
Un journaliste a dit c'est un cœur en hiver qui va s'illuminer, effectivement, en référence à Sauté. Vous disiez, je construis pas, mais avec Sauté, il fallait construire les personnages quand même, non?
Non, il fallait pas, mais je sais pas ce que c'est que la construction d'un personnage.
Mais on va lui dire, c'est-à-dire établir un passé.
Non, on n'a jamais établi de passé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller sur cette terre étrangère qui est le metteur en scène et de me laisser. On fait des valises, mais ce sont jamais les bonnes valises, donc ça ne sert à rien les valises qu'on fait dans la construction d'un personnage. Et donc, dans le fond, quel est notre don, c'est de savoir aller dans l'univers de l'autre. Et c'est ce que je faisais avec Sauté. Alors Sauté, c'était la virgule près, c'était le texte. C'était... Mais chez Ludovic Bergerie aussi.
Aussi.
C'est très... Oui, il n'y a pas d'improvisation, il n'y a pas tout, est à la virgule près aussi. Et...
Elle revient sur le marché de l'amour, si je puis dire. Hein. Elle va essayer de retrouver sa sensualité grâce à une application comme Tinder. Et elle se retrouve un soir avec un inconnu qui la convoque chez lui. D'ailleurs, c'est par parenthèse, c'est assez dangereux. Elle rencontre cet homme, et cette scène est incroyable parce que c'est...
Mais elle y va, le danger, elle est un peu comme ces adolescents qui se fracassent. Le danger, c'est ce qui fait la caractéristique du trajet. Elle en a besoin. L'excitation, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, effectivement, qui traverse comme ça les frontières et qui expérimente des choses. Et elle est aussi de son époque, elle est... Elle connaît plus les codes de cette époque, mais elle se dit, ok, Tinder, pourquoi pas Tinder, on y va. Donc elle s'inscrit sur Tinder et elle rencontre un type.
Écoutez, vous allez voir, parce que c'est assez raide, hein, on y va.
Vous avez soif?
Je veux bien un verre d'eau.
C'est dit.
Oui. Excusez-moi, c'est la première fois que je le fais avec quelqu'un que je connais pas, donc...
Ouais, c'est pas grave. C'est mieux comme ça. Ça évitera tous les blabla.
C'est assez terrifiant. Alors, on va passer la scène d'amour, parce qu'il ne se dit rien, et j'aimerais bien qu'on aille après. Qu'est-ce qui se passe après?
C'est bien.
Pardon?
C'était bien?
Oui.
Bon ben... Je crois qu'il faut y aller maintenant.
Je me rhabille.
Ouais.
On pourra se revoir?
Ouais, bah... On se recontacte.
Il est affreux ce « on se recontacte ».
Pas complètement compris les règles.
Non, c'est ça.
C'est l'histoire d'un oui, cette scène. Il y a un premier oui, qui est un oui, on ne sait pas où il est, et puis un oui de satisfaction après.
Assez beau, c'est que quand... assez beau, assez curieux et drôle et beau et pathétique en même temps, il y a tout chez ce personnage, c'est qu'en fait, quand se dessine un lien affectif, elle ne sait plus du tout, elle ne sait pas faire l'amour, et elle va effectivement prendre son pied quand il y a pas... Comme si c'était pour elle... plus facile... Non, je ne vais pas m'embarquer, voilà. Sinon, je vais raconter trop de choses.
Ouais, en revanche, sur l'actrice, vous dites « Je ne sais plus faire l'amour au cinéma. »
Moi, Emmanuel?
Oui.
Ah, Non, c'est vrai que j'ai plus très envie de faire l'amour au cinéma, et en même temps...
Vous l'avez trop
quand
fait
Ludovic...
Non.
Je l'ai beaucoup fait, oui. Je l'ai beaucoup fait, mais quand Ludovic Bergerie m'a parlé de cette scène d'amour, avec cet homme qu'elle rencontre pour un soir... Il m'a dit, je veux vraiment, non seulement les mains de cet homme sur la peau, mais je veux tes mains à toi sur sa peau à lui. C'est comme ça qu'elle reprend contact avec la vie aussi. C'est à travers le désir du corps et la sexualité. Et donc, Ludovic, il dit que c'est une belle au bois dormant, sauf que la belle au bois dormant, elle a 50 balais, quoi. Et donc, elle se réveille. Et elle est regardée, c'est une femme aussi. C'est vrai que... On regarde une femme, le désir d'une femme, le désir de revivre d'une femme, la sexualité d'une femme de 50 ans, on la regarde pas forcément de la même façon qu'on regarderait un homme, non?
Je disais, en ouvrant cette heure, elle a rien à perdre et tout à gagner. On peut pas s'empêcher de faire de parallèles avec vous, Emmanuel Béat. Pourquoi donc?
Mais parce que moi, je suis dans cette phase où j'ai plus rien à perdre. C'est évident. Il y a que de belles choses qui peuvent m'arriver. Il y a plus grand chose. J'ai dit, il y a plus grand chose à prouver. Il y a tout à prouver parce qu'à chaque fois, moi, j'ai tellement le sens des responsabilités qu'à chaque fois, je m'empare du truc. Je lâche pas. Je suis acharnée. Donc, mais oui, j'ai, ça va, quoi. J'ai 57 ans et j'ai bien voyagé. Donc maintenant, je suis beaucoup plus curieuse, en fait, beaucoup plus ouverte. J'ai envie de choses. Je le dis, j'ose dire aux gens que j'ai envie. Voilà, des choses que je n'osais pas faire avant.
Comme tourner avec Jeanne Balibar, comme vous l'avez fait, par exemple.
Bah oui,
dans les films OVNI. Oui, bien sûr. Parce que vous étiez fatiguée du cinéma à un moment ou pas?
Non, j'ai simplement continué avec le théâtre. J'ai été embarquée par Nordet et Pascal Rombert. Et c'est marrant parce que quand on disparaît, en fait, quand on va faire du théâtre, on a l'impression que les gens pensent que vous disparaissez. Mais en fait, non, c'est un travail tellement dingue, le théâtre. Être sur scène, c'est tellement prenant. Que moi, j'ai pas du tout disparu. J'ai juste passé 10 ans de ma vie à faire du théâtre passionnément. Voilà. Dans une troupe, dans un collectif. Il y avait aussi peut-être une certaine envie d'anonymat. Voilà. J'avais besoin de retourner bosser, autrement.
Mais c'est une page qui est définitivement tournée, le théâtre?
Le théâtre? Non, vous rigolez. Non, j'y retourne. Non, je peux pas laisser Nordet ou Rambert comme ça. Rambert, il écrit une pièce de théâtre, que je jouerai dans quelques temps. Nordet, c'est Penthésilée de Kleist. Donc, pas du tout. J'ai férocement besoin de théâtre.
Charlène Favy, vous avez vu le film L'Étreinte?
Ouais, j'ai adoré. J'ai adoré ce film. J'ai trouvé que c'était très sensuel. Et ce qui m'a énormément touchée, en fait, c'est que cette femme, la renaissance de cette femme, elle m'a fait penser à l'émancipation d'une adolescente, en fait, dans ce qu'elle est en train de vivre. C'est-à-dire qu'elle ne connaît plus les limites, elle s'affranchit de toutes les limites, elle se met en danger. Et c'est des thèmes, moi, qui me sont chers dans mes films. Et je trouvais que c'était très, très beau de voir une femme mûre redevenir une enfant, et finalement, reprendre goût à la vie en redécouvrant tout pour la première fois, en fait. Et ça, ça m'a énormément touchée. Emmanuel est sublime, le 35 mm, moi qui suis... j'adore l'image, l'esthétique, donc je trouve ça une très belle idée d'avoir choisi le 35 mm. Enfin voilà, je trouve que c'est un très beau film.
C'est drôle, vous avez dit, Emmanuel Berg, je me sens plus spectatrice que comédienne dans ce film.
Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que j'avais eu du plaisir à voir le film, donc du coup, j'étais vraiment une spectatrice du film.
Parce que c'est rare que vous ayez du plaisir à voir un film dans lequel vous êtes.
Ah oui, oui, c'est compliqué, le rapport à soi, le rapport à l'image, le rapport... C'était compliqué. Apparemment, ça l'est plus du tout. Il y a quelque chose qui a férocement changé. Je ne sais pas pourquoi.
Ça s'appelle...
Je veux juste te dire que moi, j'ai vu Slalom aussi. Je n'ai pas vu Mandibule encore.
On va en parler de Slalom.
Mais je vais... Voilà. Je veux dire à quel point j'ai aimé ce film. Et j'ai osé le dire à Charlène immédiatement, d'ailleurs. Voilà.
Justement, elle est à l'aube de sa vie de femme. Lise, 15 ans, c'est Noé Habitat, intègre une prestigieuse section ski-études du lycée du Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion et désormais entraîneur, c'est Jérémy Régnier, décide de tout miser sur sa nouvelle recrue.
Je t'ai vu, t'es complètement à cul. T'as chié dans ton froc ou quoi?
J'étais fatiguée, là, j'avais mal aux jambes.
Alors qu'est-ce que tu fous, là? Tu crois que t'es ici pour t'amuser?
J'ai merdé, mais c'est la première fois que ça marche.
Mais c'est la dernière. Pour les France, va falloir se réveiller.
C'est qui, ça?
Lise.
Voilà.
Ça progresse.
Son atout, c'est qu'elle a pas peur. Elle en veut. À la fin. Si tu réfléchis trop, t'es mort. Faut lâcher les freins. Poser son cerveau. Et y aller.
Slalom, c'est votre premier long-métrage, Charlène Favier, sur l'emprise donc d'un entraîneur dans le milieu du sport. Et on en parle beaucoup, mais vous avez écrit le film en 2014, avant MeToo, avant toutes ces histoires d'entraîneurs sportifs. Et c'est aussi un petit peu pour raconter votre parcours à vous, mais en le fictionnant.
Oui. Alors, c'est même pas pour raconter quelque chose que je... En fait, c'est venu à moi. C'est-à-dire que ça, c'est le film qui est venu me chercher. Je me suis même pas dit, tiens, je vais raconter cette histoire. C'est-à-dire que c'est ça qui est très étrange. C'est-à-dire que d'un seul coup, les scènes ont jailli. J'étais à l'atelier scénario de la Fémis et je me suis mis à écrire des choses. Et c'est plutôt les personnes qui étaient autour de moi qui ont commencé à me dire, mais Charlène, est-ce que tu te rends compte de ce que t'es en train d'écrire? Et à ce moment-là, d'ailleurs, j'ai eu très peur et j'ai failli renoncer totalement, parce que me sentais pas prête, et puis grâce à l'accompagnement et à la bienveillance de beaucoup de gens autour de moi, j'ai été très bien accompagnée pour faire ce film. J'ai compris, pu assumer, puis défendu, puis je me suis battue pour que ça existe, vu que ça a été très long finalement pour que le film soit soutenu. Et je pense que MeToo en 2017 m'a donné du courage et de la force, parce que j'avais peur quand même finalement quand j'ai compris le sujet de mon film. Et puis après, ça lui a donné l'impulsion dont on avait besoin pour qu'il puisse exister.
Ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas servi de ce film pour faire un plaidoyer, mais... Et ça, c'est beau, c'est le cinéma, c'est de concentrer tout sur le regard intime et sensoriel d'une jeune fille autour de cette actrice qui est Noé Habitat.
Oui, parce qu'en fait...
Tout est vu à travers elle.
Ouais. Mais parce qu'en fait, j'ai fait ce film pour essayer de comprendre ce que j'avais à l'intérieur de moi. Ouais. C'est-à-dire qu'en l'écrivant, je n'avais rien compris. En fait, j'ai finalement compris en écrivant ce film, en faisant ce court-métrage aussi avant, qui m'a permis justement d'essayer, parce que je ne savais pas non plus si j'étais capable de faire ça. C'est une énorme responsabilité de faire un film là-dessus. Donc en fait, je crois qu'à chaque fois c'est la même chose. Je crois que je fais des films pour essayer de comprendre l'étrangeté du monde et puis qui je suis, parce que je me trouve un peu étrange moi aussi parfois.
Ou... Des films, c'est votre premier film.
Oui, mais alors j'ai fait plein de courts-métrages avant. Ouais. On oublie souvent qu'avant de faire un premier long, on fait beaucoup de courts et les courts restent dans l'oubli et personne ne les voit. Et d'ailleurs, tant mieux souvent parce que.
Mais ils vous ont vachement servi ces courts.
Oui,
justement.
Oui, et tous ces courts, ouais. Ces petites facettes de Lise qui sont moins assumées, qui racontent d'autres, puis ces petites facettes de moi aussi. Et c'est une espèce vraiment de quête intime et intérieure que j'essaye de faire avec le cinéma, et je dis souvent que le cinéma, ça m'a permis de trouver un territoire et une famille et de me rencontrer en fait, et pour ça je le quitterai jamais, quoi.
Ce qui est très intéressant aussi, que c'est pas du tout un portrait à charge de cet entraîneur, au contraire c'est pas un violeur, enfin je veux dire c'est pas un type qui abuse quotidiennement des autres, c'est à la faveur de cet entraînement, parce qu'en fait, ce type qui est un ancien champion se projette dans cette fille qui va en devenir une, en fait. C'est un peu lui en fille, quoi, ce qu'il aurait pu devenir, non ?
Complètement, ça peut être lui en fille, sauf que lui est plus vieux, donc il a vécu des frustrations, ouais. Il a des blessures, il a des fêlures. On sent d'ailleurs que sa compagne Lilou, elle est prête à tout pour l'accompagner, parce qu'elle se dit s'il est bien, on sera bien, notre couple sera bien, tout sera bien. Voilà, il y a une espèce de gouffre aussi autour de tous les personnages d'ailleurs, la maman, Fred.
Justement, parlons de cet entourage, parce que vous avez été jeune sportive aussi. Ils sont complètement exclus. Enfin, je veux dire, leur famille est loin. La mère est à Marseille, il peut pas s'occuper d'elle. Le père est carrément absent. Donc, mais la figure de l'entraîneur, elle devient la figure d'un père, d'un frère, d'un ami, de plein de choses.
Ouais, alors c'est marrant, on en parlait hier avec la ministre des Sports qui est venue à une projection qu'on a fait à Montreuil. Et on parlait de ça. Justement, c'est vraiment le rapport entraîneur-entraîné qui est très étrange, oui. Parce qu'en fait d'un seul coup il y a une admiration qui est dingue, quoi. C'est-à-dire c'est Dieu, et donc tout est possible, tout est permis, et c'est là où justement il faut que le monde du sport remette les limites en place, parce qu'on ne peut pas tout permettre justement pour et Noé disait très bien ça hier soir, elle disait « Mais moi, quand j'ai travaillé ce rôle, c'est normal que Lise, elle tombe amoureuse de lui. Il est beau, il est tout puissant, il remplace mon père, c'est un peu comme mon grand frère. Bien sûr qu'une adolescente, elle peut tomber amoureuse de son entraîneur. » Ensuite, ce qu'il faut bien remettre à sa place, c'est que l'adulte, lui, il doit justement mettre la limite, quoi.
Emmanuel Béard, vous avez vu le film, donc ?
Oui, j'ai vu le film. Je pensais aussi... D'abord, je pensais qu'effectivement... le fait qu'elle soit pas entourée, il y a quand même une forme d'abandon qui fait que ces choses-là sont possibles en dehors de l'emprise qu'un entraîneur peut avoir sur. Oui.
Mais l'absence des pères, la complaisance des mères, c'est quand même
le silence, c'est ce qu'il y a de plus brutal dans ce film, c'est le silence, c'est ce qui fait mourir. Mais il y a personne à qui parler. Les scènes avec la mère, on sent. Donc, mais en même temps, il y a pas de. J'aime bien parce que il y a pas de jugement non plus sur les personnages. Il y a pas de. Donc, on finit par être sensible à chacun d'eux. Enfin, il y a quelque chose qui.
Et d'ailleurs, moi, la maman, je l'adore.
Mais oui, c'est
ça. Je l'adore parce qu'elle a envie de refaire sa vie, quoi. Qui n'a pas envie de refaire sa vie, justement, à 50, 60 ans. Elle me fait penser au personnage de Margot, quoi. Ouais, absolument. Et à un moment, elle se dit, ça suffit. Ça a été trop dur, là. Moi aussi, c'est mon moment de liberté.
On va écouter un extrait justement entre Jérémy Régnier et Noé Habitat de Confrontation.
Il faut que ça reste entre nous, ce qui s'est passé.
C'est pas ça.
C'est quoi, là ?
J'ai besoin de plastron.
Remets ça.
J'ai besoin de plastron.
Remets ça. Je vais t'en trouver un demain.
Regarde, là, j'ai mal.
Ouais.
continuer. Hein? Faut que tu te réveilles. Faut que tu te réveilles, là. La Galice, c'est dans un mois. Dans un mois. Hein? Est-ce que tu veux les écraser ou pas? Alors frappe-moi. Allez, frappe-moi. Allez. Tu veux les écraser ou quoi? Frappe! Plus fort! Plus fort! Allez, frappe! 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 Frappe!
Slalom très délicat, sujet à filmer, Charlène Favier, notamment les scènes d'abus, parce que c'est très difficile, non? Vous les avez filmées, en fait, du point de vue, encore une fois, de votre actrice.
Oui, c'est ce que je dis souvent sur ce film, c'est que j'ai tout filmé du point de vue de Lise, que ce soit les scènes d'abus, les scènes de sport, les scènes de ski, tout est filmé du point de vue sensoriel de Lise, parce que je n'avais pas du tout envie, en fait, qu'on aborde ce film de manière analytique, avec du recul. J'avais envie qu'on vive, qu'on sente. Parce que je pense que pour parler de ces sujets, il faut qu'on parle des sensations, sinon on n'y arrive jamais.
Comme les scènes de, alors, les scènes de
les
ski.
Les scènes de sport.
Sont géniales.
Sont extraordinairement bien filmées, mais c'est effectivement des respirations. C'est une sorte d'oxygène de son corps, de son mental, et ça, c'est très, 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 très bien rendu.
Oui, le vertige, et puis voilà. Dans le ski. Alors, moi, le ski, j'adore. Hein. Je suis une skieuse depuis toujours. J'ai grandi là où j'ai tourné le film, ouais. Donc c'est vraiment chez moi et tout ça. Et j'avais envie qu'on sente, parce que quand on s'élance dans une pente comme ça, il y a une sensation de vertige qui est flippante et qui est en même temps grisante et ça j'avais vraiment envie qu'on le ressente, qu'on sente le cœur qui se soulève quoi d'un seul coup et qu'on ait cette montagne autour. Enfin voilà, c'était un enjeu hyper important pour moi que tout le monde puisse se jeter dans la pente avec elle.
Ça serait bien que vous filmiez les reconstitutions sportives.
C'est le rapport que cette jeune femme elle découvre son corps aussi, elle découvre sa sensualité, et c'est là où la frontière est très fragile, et c'est ce qui est très très beau dans le film, c'est qu'on sent... Et puis il y a un rapport au corps dans le sport, non, Charlène, il y a quelque chose qui fait qu'on la pèse, qu'on la regarde, qu'on la scrute, qu'il a ce contact. J'imagine que ça, c'est quelque chose que tous les jeunes sportifs... vivent dans cette emprise du corps.
C'est bête de concours. Hein.
En même temps, cette fille, c'est pas complètement une victime. C'est ça qui est intéressant dans votre film. D'abord, elle veut être regardée, elle veut gagner, elle veut être une championne. Et donc, elle peut aussi, à un moment, prendre l'ascendant. C'est-à-dire que ce sport et cette espérance de médaille peut la rendre supérieure. Et c'est en ça que c'est une superwoman aussi.
Ouais, c'est une superwoman. Elle a un courage, une force incroyable, Lise. Je l'ai écrit aussi un peu pour prendre la revanche sur l'adolescente que j'étais, même si j'étais quand même très libre et j'avais aussi de la force, mais peut-être pas autant que Lise. Et c'était très très important pour moi d'imprimer ça, d'imprimer à quel point on peut être, très 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 dense déjà à 15 ans, et il faut l'être, et il faut être capable en fait d'arriver à poser son identité, à se respecter, et ça, alors c'est un chemin qui est long et difficile, mais on peut y arriver. Et ça, c'était super important que ce film, ça soit vraiment le message du film.
D'ailleurs, vous le dites, c'est les valeurs du sport qui m'ont appris à me battre pour arriver à ce que je veux. Vous faites du cinéma grâce au sport.
Oui, sûrement. Non, mais sûrement parce que je viens pas du tout de ce milieu-là. Ça a été difficile pour moi d'arriver à rentrer dans la famille du cinéma français, parce que c'est quand même un peu une caste. Hein, c'est quand même quelque chose de très fermé. Faut pas se mentir quand on vient de l'extérieur. Et c'est vrai qu'à force de le sport, ben on chute, on recommence, on tombe, on refait. Enfin voilà. Et donc du coup, j'ai fait la même chose. C'est-à-dire, j'ai fait plein de courts-métrages qui n'ont pas forcément été réussis. J'ai recommencé. J'ai déposé des dossiers. J'ai monté ma société de production. Enfin voilà, et puis au bout d'un moment, mais je me suis dit, je vais y arriver. Mais ça, c'était quelque chose que je sentais en moi très très fort. Et en même temps, je pense que Lise aussi. D'ailleurs, elle va très très loin dans son parcours sportif. Elle sent qu'elle a quelque chose. Ouais. Elle sent et ce que disait Emmanuel, c'est juste, c'est-à-dire que quand elle se jette dans la pente aussi dans les séquences de ski, elle va voir ce dont elle est capable de faire. Ouais, jusqu'où elle est capable d'aller. Et elle sait qu'elle a de la force. Ouais, elle le sait.
Charlène Favier, une victoire contre combien de parcours détruits? Aussi. C'est vrai, hein?
Non, mais ça, c'est sûr. Et à l'origine de ce film, il y avait deux choses. Il y avait l'envie du sport et il y avait l'envie de faire un film sur le renoncement. Et alors ça, c'est deux choses pendant le financement. On me disait, les films de sport, ça ne marche pas. Les films de renoncement, ça n'existe pas. Et c'est des choses, j'avais très envie qu'il y ait ça dans le film. Alors ce n'est pas que ça, mais le renoncement comme une victoire, en fait. C'était ça que j'avais envie aussi de raconter dans ce film.
Vous êtes arrivé. Après ces deux films de femmes, on va passer à les films de garçons et à ça, par exemple.
Oui, il faudrait qu'on trouve des applis qui servent à tout le monde. Genre quand tu paumes ton portable, tu l'as perdu, t'appuies sur l'appli et tu retrouves ton portable. Et si tu l'as paumé, bah t'appuies sur l'appli du portable que t'as perdu. Ouais.
Voilà, c'est en regardant ce sketch que Quentin Dupieux a pensé à vous deux.
Tout à fait.
À cette amitié entre deux jeunes types. Comment vous définir un peu bas de plafond? Donc, dans son nouveau film Mandibule, vous, c'est Jean Gab, David Marseille.
Tout à fait.
Et Manu, c'est Grégoire Ludig. En fait, c'est très drôle, c'est que ce film, je crois que c'est le 8e, ouais, de Dupieux.
Oui.
Il tente après un parcours un peu surréaliste, baroque, réalité déformée. Là, il voulait en gros raconter une histoire d'amitié au premier degré, même si le premier degré n'existe pas.
Avec
vraiment.
Une mouche géante tout de même, donc oui. Le surréalisme est quand même un petit peu là. Mmh. Mais il y a quelques années maintenant, quand il tournait au poste avec Grégoire, je pense qu'il a perçu en nous une alchimie qu'on a depuis très longtemps, puisqu'on se connaît depuis le collège avec Grégoire. Et,
dans une banlieue molle, vous dites.
Dans une banlieue molle, exactement. Les on n'avait pas grand-chose à faire, donc il ne restait qu'à tourner des sketchs le mercredi et le week-end. Et bref, on se connaît depuis maintenant plus de 20 ans et on collabore ensemble depuis 15 ans. Et Quentin a vu ça. Et c'est vrai que sur le tournage d'Opos, il était venu nous voir, on réfléchissait à notre prochain, enfin à notre film, l'écriture d'un film, et il nous avait dit « Moi, je sais ce que vous devez faire. Vous devez être deux potes qui trouvent une mouche géante dans le coffre d'une voiture. » Et puis, ça s'est arrêté là. On s'est dit « Bon, d'accord, ouais, ok, super, qu'est-ce qu'on va faire de ça ?» Et voilà, un an plus tard, il retombe sur ce sketch, il retombe sur une émission qu'on avait fait, il trouve une énergie, et il nous appelle en nous disant « Écoutez, j'ai écrit... l'histoire des deux types qui trouvent la mouche géante dans un coffre.
Une énergie dans la mollesse, hein, parce qu'ils
dans la mollesse. Complètement.
Donc voilà, donc ils préparent un coup et dans le coffre d'une voiture, donc ils ont volé, ils découvrent cette mouche. Et au lieu d'avoir peur, comme nous tous on aurait peur devant cette énorme mouche, vous proposez
de l'apprivoiser.
Oui, de faire une affaire.
Pourquoi on sert pas de la mouche là pour se faire de l'oseille?
De l'oseille?
Ouais.
Avec la mouche?
Bah ouais.
Tu veux la vendre?
Non.
Tu veux faire une petite annonce? Vends grosse mouche vivante?
Non, putain, on l'apprivoise. Ouais, on l'apprivoise. Comme ça, une fois qu'il a confiance en nous, on l'adresse comme un singe, tu vois. Voilà.
Voilà quoi?
Une fois qu'il est dressé, on en fait ce qu'on veut, on l'envoie où on veut. Eh, ça vole, les mouches. Tu captes pas l'idée, là, Manu?
Attends, Jean-Gab, s'il te plaît, là. Il y a Michel qui nous file 500 balles pour livrer une valise d'un point A à un autre point, ok? Pardon, mais je trouve ça plus simple que de dresser un insecte.
Non.
Perso.
Non, t'es con. Avec mon idée, on peut faire 1000 fois plus de thunes que 500 balles.
Mais
imagine, elle répond à nos ordres. On peut l'envoyer, tu vois, dans une banque pour nous prendre du pognon et nous ramener le pognon de la banque. Et nous, on fait rien. Putain, c'est comme un drone.
Un drone?
Ouais. C'est même moins chiant qu'un drone, on n'a pas besoin de mettre deux piles.
Attends. Tu veux dire que la mouche, elle va
chercher des trucs pour nous.
Elle va chercher des trucs pour nous, et nous, on fait rien du tout.
Tu vois le plan, là, ou quoi? Hein? Là, plus besoin de ton Michel, moi je lâche mon job de con direct. Tu vois le tableau, là, ou quoi?
J'ultra vois le tableau, là.
Un taureau, ça tue ou ça tue,
là? Un taureau, ça tue, là.
David Marseille, à quel degré de bêtise atteindre sans en faire trop? C'est la question que vous vous êtes posée pour jouer dans Mandibule.
Exactement. Quand on écrit des sketchs, de toute manière, on est obligé de souvent surjouer les personnages parce qu'on a 3 minutes pour faire passer la comédie.
Oui.
Tandis que là, le défi, justement, c'était de tenir des persos complètement bêtes et peut-être un peu caricaturaux. Mais Quentin était là, justement, pour veiller au grain. Il a quand même une manière de faire qui est très particulière. Tout est à la virgule près, il nous faisait moduler, il n'y a jamais d'improvisation, non, c'était vraiment au cordeau, donc c'est comme ça qu'il a réussi à retenir un petit peu les chevaux.
Oui, et il ne voulait pas que le duo soit trop agaçant justement sur la longueur.
C'est ça, mais
c'est
nous
très
plus.
Compliqué.
Non, nous non plus, on ne voulait pas que ce soit agaçant, mais c'est pour ça que le film est un peu en deux parties.
Oui.
Il y a une première partie qui se focalise effectivement sur la rencontre avec la mouche, le plan, et puis très vite... Si on était resté sur ces deux personnages, ce serait devenu épuisant. Donc, il a eu cette idée de rebasculer ensuite dans cette maison avec l'arrivée de Adèle Exarchopoulos, qui fait quand même une partition magnifique.
Ouais, et qui hurle. oui. Donc, il y a votre duo de Palma Show, mais il y a aussi des références américaines, parce que c'est un buddy movie, c'est vraiment un genre américain, un film de potes, Dumb and Dumber, des frères Farrelly. C'est pas dans notre culture en France, ça.
Non, c'est vrai, mais je vais pas me parler à la place de Quentin, mais c'est vrai qu'il faisait des films aux États-Unis pendant très longtemps. Oui. Là, il commence à faire ses films en France et je crois qu'il se, voilà, il se détache un petit peu de cette partie-là. Et, mais quand même, il est référencé par tout ça. Donc, il y avait les frères Farrelly. Il y a aussi un petit peu de E.T., hein, avec cette mouche, avec cette...
Que vous mettez dans une couverture exactement,
exactement
comme E.T.
Exactement. Donc, il y a une partie de fantastique. mais je crois qu'il est plein de références et qu'il les recrache un petit peu à sa manière avec son style.
Donc, avec cette mouche qui est comme une marionnette.
Oui.
Mais vous aussi, vous êtes des marionnettes dedans.
On est complètement des marionnettes. Hein, on est les marionnettes de Quentin Dupieux.
Oui, complètement.
On est, enfin, tout mais acteur dans un film de Quentin Dupieux est une marionnette.
En quoi vous vous sentez plus marionnette avec Dupieux qu'avec d'autres?
Parce que j'ai l'impression que ça ne sert à rien d'intellectualiser son personnage chez Quentin Dupieux. Ouais. Enfin, quand on fait des films ailleurs, on a tendance, enfin, je sais pas, mais de réfléchir un petit peu au personnage, de se poser des questions. Est-ce que je suis dans le bon ton? Est-ce que ce que je suis en train de faire a du sens? Ouais. Avec chez Quentin, rien n'a du sens. Ça respecte que ses règles. C'est-à-dire, on est dans son monde, donc ça ne sert à rien d'essayer de se dire, mais est-ce que le personnage? Non, c'est complètement fou, c'est absurde. À tout moment, il y a un piano qui peut tomber. Donc ça ne sert à rien d'essayer de réfléchir. Donc on lâche prise. Et c'est un petit peu comme des vacances. C'est-à-dire qu'on se laisse aller.
Et pas tant que ça quand même. Pas tant que ça, non. Il faut jouer quand même.
Ah, bien sûr qu'il faut jouer, bien sûr. Mais on est vraiment à l'écoute et on se détache de toute angoisse qu'on peut avoir quand on est acteur, de se poser des questions sur.
Oui, vous n'êtes pas seulement acteur, vous êtes aussi auteur. Il n'y a aucune frustration d'auteur.
Alors justement, ça aussi, c'est ce qui est très agréable, c'est quand on est auteur aussi de ce qu'on joue. Mmh. Forcément, on est vigilant sur ce qu'on fait. On se pose des questions. Est-ce que c'est cohérent ce que je suis en train de dire? Tandis que là, avec Quentin, je sais pas s'il y a vraiment de cohérence. Donc vraiment, on se laisse aller. Et je crois que c'est ce qui est assez agréable et ce qui fait partie aussi du film. Quand à la fin, ils disent, on s'en fout. Il y a une partie on doit lâcher plus quelque part.
Mais en même temps, c'est des duos que vous inventiez aussi pour le Palma Show, ces deux types-là. Donc, c'est un peu... Ça reste dans la même...
Il y a une continuité.
Oui, il y a une continuité.
Il y a une continuité.
dans
la bêtise, complètement. Je crois que c'est ce que Quentin a aimé aussi chez nous.
Vous tenez la note.
Oui.
Oui, très très bien. Ouais.
Vous savez qu'une mouche n'a pas de mandibule.
Oui, alors...
ça ne leur a pas échappé.
Alors, Quentin l'a dit, justement, Quentin Dupieux l'a dit, il a trouvé le nom, en fait, persuadé que les mouches avaient des mandibules, en disant, c'est super, ça, il y a un côté BD, mandibule, je trouve ça mignon, c'est seulement quelques semaines après qu'on lui a dit, mais les mouches n'ont pas de mandibules.
Mais les affiches étaient faites.
Voilà.
Donc, c'est ça. Oui.
Mais donc, il a eu cette idée, en fait, cette mallette qui était un simple MacGuffin. Je ne vais pas dire ce qu'il y a dedans, mais c'est comme ça qu'il a rattrapé, en fait, le titre.
D'accord. Voilà. Et alors, donc vous écrivez aussi, vous allez faire un nouveau film.
Oui, tout à fait, qui s'appelle Les Vedettes, qui devrait sortir normalement en février 2020. Bon, là, on a pris un ticket comme à la poste, en attendant qu'il y ait les 400
films. Mais vous l'avez écrit pendant le confinement.
On l'a écrit pendant le confinement. Ouais. C'est-à-dire qu'on a eu, c'est notre réalisateur qui s'appelle Jonathan Barré, qui nous a soufflé une idée, d'une brève qu'il avait lu, qui nous a complètement fasciné, et on y a réfléchi pendant le tournage avec Quentin, qui, je dois dire, nous a beaucoup nourri, il nous a insufflé quelque chose qui nous manquait peut-être depuis quelques années. Et est arrivé le confinement, et étonnamment, on se skypait tous les jours avec Grégoire, et on écrivait tous les matins 4 heures sans s'arrêter, et puis on réfléchissait.
Qu'est-ce qui vous manquait, en fait? Qu'est-ce qui vous manquait? Parce que ce que vous écriviez, c'est pour la télé. Il vous manquait du cinéma?
On avait fait du cinéma avec Max et Léon, on avait déjà joué à plusieurs reprises.
Bien sûr, mais du cinéma, il vous manquait quoi?
Il nous manquait... c'est en voyant travailler Quentin, je crois, qui donnait de l'importance, en fait, à l'histoire constamment. J'ai toujours eu l'impression que dans la comédie, voilà, c'est un problème d'ailleurs en France, on ne s'attache pas vraiment à ce qu'on est en train de faire. On réfléchit vraiment au gag, purement. Mais on ne se dit pas, tiens, ton personnage en est là pour certaines raisons. C'est-à-dire qu'on n'intellectualise pas forcément.
Ça dépend qui.
Ça dépend qui, ouais. Son histoire. Bon, moi, mes expériences précédentes, en tout cas, c'était un petit peu comme ça. Et donc là, on s'est dit, mais oui, mais c'est tout à fait possible. Et puis, cette idée de narration un peu folle nous a beaucoup plu. Et je pense qu'on s'est un petit peu inspiré de ça pour l'écriture.
Mandibule, L'étreinte, Slalom, trois films à voir depuis ce mercredi. On va parler des autres, parce qu'il y en a d'autres quand même. En attendant, on écoute Clara Luciani. Merci, vous restez tous les trois avec nous, bien sûr.
Je ne suis qu'une imbécile, allongée sur le dos, je me refais le film. Le début était beau, puis je t'imagine jouer sur ton piano une mélodie, expire dans un écho, j'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. C'est mon souvenir qui palpite encore, qui va bientôt mourir. Est-ce mon pauvre cœur qui a tout inventé? Étais-tu ici? M'as-tu au moins aimé? J'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Le reste, je te le laisse. Perdu sous ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Je reste amoureuse d'une idée qui s'éteint, figée à jamais dans un miroir sans teint, d'où je te regarde t'en sortir à merveille, épier ton bonheur, me le rend moins cruel. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse.
Oui, on parlait en fait de la joie du public de retrouver les salles et les distributeurs et du monde du cinéma et de la jeunesse qui revient dans les salles, David Marseille.
Oui, oui, tout à fait. J'étais, moi, vraiment touché de voir des gens dans les salles quand on a fait la tournée un petit peu lors de l'ouverture. Ouais. Mais ce qui m'a vraiment, moi, ému, c'était de voir des jeunes, vraiment. Oui. Parce que, voilà, on dit que les jeunes ne vont plus au cinéma, mais c'est faux.
Que voir au cinéma en dehors des trois films de nos invités? Laurent, on va commencer, pas pour les jeunes peut-être, mais qui est super intéressant, c'est Michel-Ange d'Andrei Konchalovsky, entre moments d'angoisse et d'extase, avec un acteur étonnant, Alberto Testone.
Oui, alors c'est une ressortie, mais le film avait été hélas plombé par la fermeture, donc on essaie bien aussi d'en reparler. Bizarrement, au cinéma, Michel-Ange n'a pas eu beaucoup d'incarnations. En fait, il n'y en a eu qu'une seule précédente, c'était en 1966 avec Charlton Heston. Donc c'est Konchalovsky s'attaque à un monument, évidemment, de l'histoire de l'art, et en même temps un paysage pas beaucoup défriché au cinéma, donc c'est d'autant plus excitant. Alors ça a peut-être les défauts habituels du biopic, sur la représentation, sur l'incarnation. Là, on a vraiment, alors en termes d'acteur, c'est quasiment l'inverse de Charlton Heston. Hein. C'est une petite chose brune, presque fragile. Bon, mais pourquoi pas? Après tout, hein, on s'en fiche de savoir à quoi ressemble Michel-Ange. C'est pas le propos. Le propos, il est notamment dans un moment très long, mais bien senti du film, où il doit s'attaquer à un énorme bloc de marbre qu'il appelle lui-même le monstre. Ouais. Et là, on est dans une sorte de Fitzcarraldo, c'est-à-dire il doit franchir une montagne qui est devant lui. Ça, c'est extrêmement réussi parce qu'on est avec lui, on le sent absolument démuni, tout petit face à ce bloc énorme de qui vient de Carrare, qu'il a lui-même choisi qui est pour déplacer ça à cette époque-là. C'est incroyable. Donc ça, c'est vraiment le cœur battant du film, et c'est très 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 réussi. Ça vaut vraiment le coup de ce point de vue-là, avec cette merveilleuse idée qui a plein de facettes, évidemment, dans le film. Le film s'appelle donc Michel-Ange, et il est signé Konchalovsky.
Ça pourrait être une reprise, on n'est pas une, il est sorti en 1974, mais jamais sorti en France. C'est The Wicker Man de Robin Hardy, un policier vient enquêter sur la disparition d'une fillette sur une île écossaise.
Mais oui, quel bonheur, c'est un film qui date de 1974, moi je l'ai découvert, parce qu'effectivement il n'est jamais sorti sur grand écran, en tous les cas en France. Alors, il y a un petit côté Le Prisonnier, là, cette série qu'on a adorée, parce qu'il débarque sur cette île, il débarque d'ailleurs en avion avec un petit biréacteur, il se pose sur la mer, c'est extraordinaire, là. Le début est formidable, et il va tomber sur effectivement un village à la façon du Prisonnier, avec, tenez-vous bien, en gourou, Christopher Lee. Ça, c'est extraordinaire. Quand on tombe sur Christopher Lee, on s'inquiète un petit peu. Mais là, il est effectivement à la tête d'une secte, alors aux pratiques sexuelles, de débauche collective, etc. Donc, c'est étonnamment dans les années 70. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que le scénario est juste signé Anthony Schaeffer. Et Anthony Schaeffer, avant, il avait fait le scénario de Frenzy et le scénario du Limier. Ouais. Excusez du peu. À partir de ce moment-là, on sait qu'il est capable de raconter une histoire, et il la raconte formidablement bien. Et ce que fait Robin Hardy à côté, c'est de prendre acte que ça raconte une histoire et un milieu totalement fou, et ces images vont avec. Donc on a la rigueur d'un scénario d'un côté, la folie des images de l'autre, ça fait un film étonnant, The Wicker Man.
Elle ne chantait que la vérité, elle ne connaissait rien d'autre, c'est Billie Holiday, et c'est un doc incroyable. En fait, elle est racontée par une autre femme.
C'est ça, une journaliste.
Très troublant et émouvant. Ouais.
Oui, une journaliste qui, dans les années 70, a fait 200 heures d'entretien sur la vie de Billie Holiday, et elle-même est morte dans des conditions très mystérieuses, ouais. Donc elle n'a jamais pu aller au bout de son travail. Le film le fait, lui rend hommage aux deux, c'est-à-dire à Billie Holiday et à cette journaliste, en plus en travaillant la forme. Il y a des colorisations, bon, on peut ne pas être d'accord avec ce principe, mais ils sont faits par une artiste plasticienne, donc c'est très très bien fait. Et puis surtout, c'est le portrait de cette femme noire indépendante qui a mené une vie de star au nez et à la barbe de cette Amérique blanche des années 50-60 qui lui en voulait énormément.
Juste dire qu'il ne faut pas oublier non plus Joseph, ni Drunk, ni Une vie secrète, après avoir vu vos trois films. On signale très vite cet exploit Beaubourg qui vient de démarrer, qui est génial, autour de Abbas Kiarostami sur 1000 mètres carrés. Tout Abbas Kiarostami plus une rétrospective intégrale de ses films, mais on y reviendra. Tout ça pour parler d'une autre exposition étonnante à l'Institut du Monde Arabe, Laurent.
Mais oui, qui s'appelle Diva d'Oum Kalsoum à Dalida. Allez voir, si vous êtes parisien évidemment, mais si vous montez à Paris, ben allez voir cette exposition à l'Institut du Monde Arabe.
C'est féminin et féministe à la fois.
C'est extraordinaire. 1920-1970, pendant 50 ans, les femmes au cinéma et sur scène ont pris en quelque sorte une part du pouvoir. Férouz, Warda, Oum Kalsoum bien sûr, Dalida, celle dont je préfère à la fois le nom mais aussi les chansons Taïa Carioca, c'est évidemment un pseudonyme, mais prendre ce pseudonyme-là en pleine Égypte, je trouve ça merveilleux. Et du coup, ça génère un superbe catalogue d'exposition qu'on vous offre, Emmanuel Béart, en vous disant d'aller voir cette expo. 200 illustrations, 21 articles, et vous verrez ce qu'on voit au fil de l'exposition et au fil de cet album publié par les éditions Skira et Lima, et bien c'est qu'aucune de ces femmes n'est voilée. 1970, des stars absolues, aucune n'est voilée, à bon entendeur, salut.
Et même des productrices, des musiciennes, des patronnes de presse, il y a les robes magnifiques et à la fois l'intellectuel. Enfin, tout
on n'a pas cité les deux commissaires, Alain Boganim et Elodie Bouffard. C'est une exposition extraordinaire qu'il faut aller voir à l'Institut du Monde Arabe et lire ce livre aux éditions Skira.
Cadeau pour Charlène Favier.
Eh bien, c'est un film de femme, pour vous, voilà, que moi je ne connaissais pas, que j'ai découvert, qui s'appelle The Boys Next Door. La femme en question, Penelope Spheeris, c'est une cinéaste américaine, qui fait ce film qu'on vous offre, donc, qui est publié par les éditions Carlotta. Merci. Qui fait ce film dans les années 85, exactement.
Entre Teen Movie et Serial Killer, un peu.
Exactement, deux ados nouvellement diplômés, un week-end à Los Angeles, et ça dégénère, et en plus, ils ont un rapport avec Patty d'Armanville, oui, la lady d'Armanville, absolument elle. C'est glaçant, jamais complaisant, la violence n'est jamais montrée de façon complaisante. D'eux-mêmes, ils décident de passer, tenez-vous bien, une journée préhistorique. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire en se remettant dans les pas des hommes préhistoriques avec tout ce que ça veut dire en termes de violence. Donc c'est extraordinaire, les bonus sont à la hauteur avec notamment un entretien avec la réalisatrice et c'est édité par Carlotta, The Boys Next Door.
Et enfin pour David Marseille, un film d'homme, La manière forte de John Badham.
Ben évidemment, un buddy movie, voilà, oui. Pour vous, un movie, bien sûr, voilà, La manière forte. Hein, on sait bien, Michael J. Fox et James Wood, un flic et une star hollywoodienne, ils se rencontrent, ça se passe pas toujours très bien, mais le film de potes, c'est ça. Je rappelle quand même que les premiers films de potes, c'est Laurel et Hardy. Hein. Vous avez des bons prédécesseurs, hein, quand même, dans l'histoire du cinéma, c'est pas mal. C'est publié par Rimini, cette manière forte de John Badham.
Merci beaucoup.
On n'a pas oublié du tout la 7e obsession, qui est une merveilleuse revue de bimestrielle de cinéma. Et figurez-vous qu'elle fait sa couverture sur les animaux et le cinéma. C'est pour vous la mouche, merci. Mais on l'offre aussi à nos deux invités, bien entendu. Les chèvres, vous connaissez. Il y a des chiens, il y a des mouches, il y a des araignées. Le cinéma et les animaux, c'est toujours d'actualité. Bon numéro de la 7e obsession.
Merci beaucoup, Charlène Favier. Merci beaucoup, Emmanuel Béat. C'était votre dernière promo.
Yes.
Merci là-bas. Accompli pour nous, pour ce film L'étreinte. Merci David Marseille pour Mandibule. Merci. Vive le cinéma ce week-end avec tous vos films. On vous laisse les clés du générique. Au revoir.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son. Georges Delerue a écrit les musiques du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Christophe Magère s'est occupé de la préparation. C'est une émission réalisée par Laurent Thomas et Claire Destacan.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi, Emmanuel Béard, j'y étais.
Et moi, Charlène Favier, j'y étais.
Et moi, David Marseille, j'y étais.